Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui proposent toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business à suivre. Dans quelques minutes, notre World Tour. Nous irons au Mozambique, mais aussi à Amsterdam. Et puis juste après, ce sera la rédaction de Zeronet.com qui se joindra à nous avec Eric Le Bourlou. On jettera un œil sur toute l'actualité high-tech de cette semaine et notamment toutes les annonces Apple qu'on va détailler avec Eric dans quelques minutes. Mais dans l'immédiat, on va parler d'objets connectés dans notre passion selon Sanet. Va-t-on vivre la fin des objets connectés? On va en parler, Mathilde Christianiag, avec votre invité exceptionnel.
Je suis avec Rafi Aladjian, le père hein, du Nabastag et aussi de Sensi et de la fameuse Mother. On est au Web Today. Rafi Aladjian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présent aujourd'hui parce que vous faites une conférence sur la fin de l'Internet des objets. Un moment où finalement on en parle de plus en plus, où la Tech Valley à Toulouse n'est plus la Tech Valley mais l'IoT Valley. Et pourtant c'est la fin.
Je pense qu'en continuant à parler d'objets connectés, en se focalisant sur la notion de faire des objets et de voir apparaître dans un peu partout des nouvelles idées, de nouveaux objets que les gens vont acheter et installer chez soi, je pense qu'on est en train de se tromper. Aujourd'hui, on est dans une phase intermédiaire dans l'évolution de ça, c'est dans la phase transitoire qui va de l'époque où nous avions un petit nombre d'appareils, c'est-à-dire un ordinateur, peut-être un smartphone, un appareil photo numérique, etc., à un monde qui est celui de l'Internet des objets, disons par commodité, dans lequel nous allons avoir des 50, 100 objets connectés. Et la manière dont les gens vont pouvoir vivre avec 50 ou 100 objets dans leur vie n'est pas 50 fois la façon de vivre avec un seul objet. C'est que jusqu'à présent, on avait des objets qui requéraient notre attention, devant lesquels on pouvait s'asseoir, qu'on pouvait prendre en main, qu'on pouvait lancer, dont on pouvait charger les batteries, dont on pouvait comprendre le langage, voire apprendre le langage, qui nécessitait des choses comme ça. Alors que si l'Internet des objets est la prochaine révolution, nous allons avoir donc des dizaines et des dizaines d'objets dans notre vie, et on ne pourra pas faire la même chose. On ne pourra pas passer son temps à apprendre à quoi sert chacun des objets, à charger ses batteries, à comprendre sa logique, comprendre sa façon d'exprimer ses besoins. Et donc la seule évolution, la seule modernité en fait dans les nouveaux objets, dans l'avenir que nous voyons, c'est la disparition complète de toute la technologie. Une technologie qui devient tellement présente qu'elle devient magique et qu'elle disparaît.
Donc en fait, oui, la fin des objets connectés, c'est surtout la fin des objets connectés visibles et sur lesquels on a une action.
Absolument. C'est que je pense qu'à l'arrivée, ce ne sont pas des objets connectés. Il va fatalement, matériellement exister des appareils, de la technologie, des capteurs, enfin, peu importe. Mais ce qui est important dans la conception et dans la façon dont se figurent les choses, c'est plus, il s'agira plus de connecter des expériences ou de connecter la vie des gens que de connecter des objets. Alors, ça a l'air de rien comme ça. Ça a l'air juste d'être un petit débat rhétorique entre les objets et la vie. Mais quand on est comme moi, dans le boulot d'inventer les dits objets ou de fabriquer ces choses, il y a une véritable différence dans le design, dans la conception, dans le type d'objet, dans le type d'algorithme qu'il s'agit de mettre en œuvre. Le cahier des charges, quand on se dit on va fabriquer un objet et que celui qu'on met en place quand on veut connecter des expériences n'est pas du tout la même. Quand on veut connecter une expérience, on va partir du principe que l'utilisateur ne va rien changer à ses habitudes. On va pas dire s'il veut faire ça, il faudra qu'il appuie ceci, il faudra qu'il comprenne ça, il faudra qu'on lui explique ça. On va faire en sorte que les gens vont vivre leur vie de manière la plus banale possible, la plus naturelle possible, manger des cornflakes, promener le chien, ouvrir la porte, mettre un pyjama, se gratter la tête. En fait, toutes ces choses qui ne nécessitent aucun apprentissage. Et il faudra comprendre ce qu'ils font. Il faudra le comprendre de manière assez fine. Il faudra non seulement le comprendre une fois, mais le réapprendre en permanence et s'ajuster. Il faudra que l'objet ne soit pas visible et qu'il soit fondu à l'intérieur de choses qui sont familières, usuelles dans l'utilisateur, pour l'utilisateur. Donc c'est très très différent de l'image qu'on a aujourd'hui de l'objet connecté, qui est le nouveau gadget qu'on a sur Kickstarter, qui fait 20 cm de hauteur, qui a des LED qui clignotent en rouge et en vert, avec une surface sensible, et qui envoie des notifications sur un iPhone.
Alors c'est vrai, mais pour parvenir à tout ça, et en fait à des objets connectés embarqués et qu'on oublie, est-ce qu'on n'est pas obligé de passer par cette étape, non pas forcément de clignotant, hein, mais de sensibilisation, et donc de multiplication de ce type d'objets auprès des gens ?
Peut-être, en étant conscient que c'est une phase intermédiaire. Lorsque vous faites un business plan sur 5 ans, vous n'allez pas concevoir que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui est un truc définitif. Donc il est bien de savoir dans quelle tendance on se trouve dans le long terme. Et puis bon, avec Olivier Mével, on fait des objets connectés depuis 13 ans. Tout ce qui se passe aujourd'hui, on a commencé à le faire il y a 13 ans. Ben, bon, maintenant, on fait ce qui va se passer dans 13 ans. Et donc voilà les sujets qui nous intéresse, c'est-à-dire faire des choses qui disparaissent et de banaliser réellement la technologie.
Cette disparition, elle implique aussi toute une gestion de la vie privée, de la gestion des données. On en est où et est-ce qu'on est mûr par rapport à ça ?
Je pense que c'est la gestion des données, c'est un sujet dont on parle beaucoup et qu'on ne traite jamais. Aujourd'hui, nous, en tout cas en ce qui concerne Sens, on a pris une résolution assez drastiques, qui sont d'une part, les données ne sont accessibles qu'à l'utilisateur lui-même, elles ne sont ni partagées, ni revendues, etc. Et elles n'ont pas besoin de l'être. Je veux dire, notre business model, il est dans la vente de hardware. On gagne notre vie comme ça, et on n'a pas besoin de revendre vos données à quelqu'un d'autre. Après tout, quand vous achetez un appareil photo Canon dit pas je vous vends l'appareil photo et je suis copropriétaire des photos. Donc on n'a pas besoin de faire ça. D'autre part, on surestime, je pense, beaucoup, beaucoup la valeur des données. Ce fantasme qu'on a sur le fait que les gens seraient prêts à payer des millions pour savoir si je me brosse les dents, je crois qu'il y a c'est très 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 surestimé. Savoir si vous brossez les dents, ça vaut probablement pas très très cher, ça vaut même probablement rien. Et je pense qu'il est beaucoup plus choquant de savoir que, en fait, mes données privées ne valent rien plutôt que de savoir que quelqu'un veut les voler. Et puis, dernière chose, les objets que nous vendons sont anonymes. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous connectez votre mother et vous mettez vos capteurs, vous pouvez créer votre compte sous le nom de Tarzan et mesurer des choses. Et on saura que peut-être qu'il y a un Tarzan qui se brosse les dents deux fois par jour, mais on saura pas que c'est vous. Je veux dire, on vous demande pas votre carte d'identité, on vous demande pas une carte de crédit, on n'est pas Apple, on n'est pas tous ces gens qui savent plein de choses sur vous par ailleurs et sans que vous le sachiez. Donc voilà, je veux dire, les données peuvent être anonymes. Si vous ne mettez pas votre nom, ben on le sait pas.
Mais des acteurs comme Facebook ou Apple, l'utilisateur dessus n'est pas anonyme.
Ben, moi je parle pour ce que nous on fait. Donc globalement aujourd'hui, les gens ont l'impression de découvrir qu'on peut capter des données sur eux avec des objets connectés, alors que si vous prenez l'affaire Tapi OM Valenciennes en 1998, où on a chopé le pauvre Jacques Mélic à un portail d'autoroute, c'était en 98, c'était une société d'autoroute et elle a pu dire qu'il n'était pas passé à la bonne heure à un péage d'autoroute. Donc les sociétés d'autoroute, que la grande distribution, les télécoms, etc., ont déjà plein de données sur vous. Sauf que jusqu'à présent, elle était invisible pour nous, donc on pensait que tout allait bien. Aujourd'hui, on a des objets connectés qui apparaissent, qui comptent votre nombre de pas, et soudain, on s'émeut de savoir qu'il y a, parce que on le voit nous-mêmes et on voit le résultat de ce qui est mesuré, on s'en émeut. Mais en fait, ce que les objets connectés capturent aujourd'hui est dérisoire par rapport à tout ce qu'on sait de vous par ailleurs.
Souvent, ce qui revient, c'est pas tant de savoir si vous brossez les dents ou le nombre de pas que vous faites, c'est l'agrégation de toutes ces sources de données qui donne un portrait de la personne qui est assez complet et qui peuvent la coûter cher, revenir cher pour des marques et qui juste en fait, enfin, peuvent être vues comme une intrusion à la vie privée.
Je pense qu'on surestime beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de fantasmes et on surestime beaucoup la valeur des données. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des données qui sont très sensibles et très délicates, mais le problème avec le débat sur les données, c'est qu'on ne l'aborde jamais dans le détail et de manière concrète. concrète en se posant la question de savoir si ce qu'on essaye de résoudre. Que finalement, des marques ou des annonceurs aient envie de savoir qui je suis pour me faire une publicité ciblée, finalement, est-ce que c'est mal ? C'est-à-dire que par défaut, vous avez du spam. Aujourd'hui, quand je regarde M6, on me vend du R&B, du shampoing pour les cheveux et des voitures. Or, je ne sais pas conduire, j'ai pas de cheveux et je déteste le R&B. Donc, si M6 pouvait savoir que je déteste le R&B, ça me ferait peut-être du silence. Eux, ça économiserait de l'argent à l'annonceur et moi, ça me ferait du silence. Donc, prendre cette attitude qui consiste à dire qu'une certaine vie privée doit être protégée, ce n'est pas sûr. Il faut qu'il y ait ce débat. D'un autre côté, souvent, il y a des données dont on se fout de savoir que la NSA soit au courant que on m'a vu tel jour, à telle heure, à tel endroit. L'essentiel, c'est que ma femme ne sache pas ce truc-là. Donc, parfois, les données sont sensibles quand elles sont plus proches que plus lointaines de soi. Donc, si on veut vraiment se poser la question de savoir quels sont les problèmes liés à la vie privée, il faut qu'on les mette tout à plat et qu'on se pose réellement le problème. Or, pour le moment, on se les pose plutôt à l'emporte-pièce en se disant, il y a Google, il va me prendre mes données pour les vendre à des annonceurs.
Qu'est-ce qui manque pour qu'on bascule dans un Internet des objets ubiquitaire et pervasif ?
Du temps, de la pédagogie, mais c'est comme tout le reste. De toute façon, on ne peut pas aller plus vite que le temps nécessaire à ce que les choses se banalisent et l'accoutumance qu'ont les gens. C'est peut-être la troisième grand changement technologique auquel j'assiste entre l'Internet, la téléphonie mobile et celle-là. Voilà, au début, les choses coûtent très cher, marchent pas du tout, servent à rien. Mais il faut malgré tout les faire, parce qu'il faut bien commencer. Et puis après, au bout d'un certain temps, tout le monde trouve ça indiscutablement utile et nécessaire. Aujourd'hui, le débat sur l'Internet des objets, c'est le même que le débat sur l'Internet en 1994. Donc voilà, faut donner du temps au temps, mais il faut continuer à concevoir, à fabriquer, à inventer des trucs.
Et trouver les business models ?
Et essayer de survivre en trouvant les business models.
Merci beaucoup, Rafi Aladjan.
Mathilde, merci. On revient dans un instant, suite de cet atelier, avec deux World Tours pour le prix d'un. Nous allons aller au Mozambique, mais aussi à Amsterdam, juste après. À tout de suite.
L'atelier numérique. L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Tout à l'heure, direction la rédaction de Zeronet.com, comme chaque samedi, avec Éric Le Bourlou, qui est rédacteur en chef actu et qui nous parlera entre autres de toutes les annonces Apple de cette semaine qui ont été nombreuses, il est vrai. Mais auparavant, notre World Tour avec un double World Tour pour vous, les amis, cette semaine. Tout à l'heure, nous irons du côté d'Amsterdam avec Lila Megrawa et notre invité. Mais dans l'immédiat, Mathilde Christiani, vous nous emmenez au Mozambique.
Oui, tout à fait. On va faire un tour au Mozambique avec Charlie Graham Brown, qui est le co-organisateur du site Star World. Bonjour Charlie.
Bonjour.
Bonjour.
Et qu'on retrouve régulièrement dans l'atelier numérique. Donc aujourd'hui, on va se pencher du côté du Mozambique avec vous, Charlie. L'écosystème start-up au Mozambique, vous le décririez comment ?
Alors, c'est très très jeune. Je pense que c'est un des écosystèmes le plus jeune qu'on va visiter cette année.
Oui.
Le pays en soi-même, c'est une pays assez pauvre. Je pense, j'ai regardé les stats, c'était en 2008, ils étaient 175e sur 180 dans un indice des pauvretés. Donc, c'était pas tous les pays du monde, c'était 2008, mais ils sont quand même assez loin au niveau pauvreté.
D'accord.
Et développement.
Et donc, du coup, on parle souvent du leapfrog. Est-ce qu'on voit des initiatives qui, justement, passent directement sur le mobile et des applications qui proposent des services directement sur mobile?
Oui, on était là pour la compétition, donc on a invité une douzaine de startups à pitcher, et je pense, tous sauf un ou deux, ils étaient sur un plateforme mobile. Donc, soit, il y a l'opportunité qu'ils ont à Mozambique, c'est incroyable, juste parce qu'il n'y a pas de développement au niveau du infrastructure, des startups IT. Donc, pour les gens un peu geeky, pour les développeurs, il y a beaucoup d'opportunités, et c'est pour ça les idées, c'est peut-être des choses que nous on prend un peu for granted, mais chez eux ils n'ont pas de toutes ces opportunités ou ces options pour l'instant. Donc les startups qui ont pitché, ils avaient souvent les mobile apps pour booker nos taxis, pour réserver à manger à midi, ou pour les choses un peu plus compliquées que nous on n'utilise pas, sur les feature phones pour recharger notre mobile, pour acheter des nouveaux crédits, etc.
On parle aussi de plus en plus d'innovation frugale, de tout ce qui est low high-tech. Est-ce que les entrepreneurs que vous avez rencontrés regardent de ce côté-là?
Alors, côté high-tech, on a vu moins. Honnêtement, je pense pour arriver à ce niveau-là, il y a du quoi faire encore sur le système de l'éducation, pour ensuite avoir les ingénieurs, les centres de recherche et de développement qui va pousser un peu plus loin. Mm-hmm. On a vu les nouveaux modèles, on a vu des technologies et des innovations qu'on n'a jamais vues ailleurs, mais au niveau très high-tech, je dirais qu'on n'a pas encore vu.
Ouais, alors moi j'avais une petite question, parce que tout à l'heure vous parliez justement de ces startups qui pitchaient et qui inventaient une application pour trouver des lieux où ils pourraient charger leur mobile, parce que c'est un problème au Mozambique, on n'a pas forcément de l'énergie comme ça facilement pour recharger son portable.
Ouais, tout à fait, c'est pas une idée qui a pitché à Mozambique, cela, j'ai vu ça, on a vu ça à Rwanda, je pense que c'était. Quelqu'un a pris des vieux vélos, ils ont redesigné, ils ont ajouté un panneau solaire sur le toit et après ils poussaient ça dans les roues pour rencontrer les gens pour charger le mobile. Donc j'ai pas vu ça à Mozambique, mais ailleurs en Afrique.
C'est super.
On recharge son mobile avec l'énergie solaire directement.
Tout à fait, ouais.
Et en pédale.
Donc je pense on paye par minute, donc on pourrait charger notre mobile, on paye ainsi par les minutes qu'on avait besoin pour charger notre mobile.
Vous avez dit également donc que l'écosystème start-up démarre au Mozambique. Est-ce qu'il existe déjà des incubateurs, des accélérateurs, des endroits où les start-up, les entrepreneurs peuvent se retrouver?
Alors, je pense qu'il y en a trois qu'on a vus. Il y a un qui est tout nouveau par le gouvernement, qui pour l'instant reste un peu vide et on a l'impression qu'il ne sait pas trop comment le gérer, pas trop comment le remplir. Après, il y avait une autre qui s'appelait Ideario, qui était qui cible les très jeunes entrepreneurs et les jeunes startups. Donc, c'était plutôt formation, mentoring, mais aussi un coworking. Et après, ils avaient des objectifs ou des projets de monter une première plateforme du crowdfunding. Donc, eux, je pense, on va entendre beaucoup parler. Après, il y avait Idealab, qui était pour les startups un peu plus late stage, qui avait déjà un business, et ça, c'était aussi un peu plutôt mentoring.
D'accord.
Donc, très jeune, beaucoup à faire.
Et au niveau de l'investissement, des business angels, quelques investisseurs,
c'est aussi tout au début qui est assez intéressant pour nous à voir. On a rencontré les gens qui sont en train de mettre en place le premier Business Angel Network. Donc ça, c'est à suivre dans le temps, l'année qui vient. Ce qu'on a compris, c'est qu'il y a des gens avec l'argent. Pour l'instant, ils ont aucune idée sur l'écosystème tech et les investissements un peu plus tech. Ils investissent que dans l'immobilier, les choses un peu plus concrètes, traditionnelles. Mm-hmm. Donc c'est tout à développer. Je pense qu'ils ont peut-être une opportunité, les startups, c'est avec le diaspora, ou même si c'est pas un diaspora, lien avec Portugal. Il y a beaucoup de, bien sûr, leur langue c'est portugais, et puis il y a beaucoup de Portugais qui vient travailler en Mozambique, ou les Mozambicains qui va étudier ou travailler en Portugal. Donc je pense que ce lien-là, avec une pays un peu plus développée, qui a peut-être plus d'expérience dans le angel investment ou early stage investment, ça peut porter du valeur pour eux.
Ben merci beaucoup pour ce panorama, Charlie Graham Brown. Je rappelle que vous êtes le co-organisateur du Seed Star World. À bientôt.
Voilà, et on remarquera aussi que donc Charlie a beaucoup d'anglicisme, hein, mais bon, effectivement, on est tous bilingues, hein, sur BFM Business dans l'atelier, donc il n'y a pas de souci. Vous savez quoi, on poursuit tout de suite avec un deuxième World Tour et nous allons direction Amsterdam maintenant avec vous, Lila Megrawa.
Oui, tout à fait, on va en profiter de la venue, ou plutôt de la sélection de la start-up française Carnomys par le fameux accélérateur Startup Bootcamp, qui est réputé comme l'un des meilleurs accélérateurs au monde, pour en discuter avec Guy Boulati. Bonjour.
Bonjour Lila.
Guy Boulati, vous êtes cofondateur et directeur général de la start-up Carnomys. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur le concept de la start-up?
Donc Carnomys est un concept innovant qui permet aux voyageurs partant d'un aéroport de bénéficier de parking gratuit, parce qu'on va louer leur véhicule à d'autres voyageurs pendant qu'ils sont absents. Donc les propriétaires, ils gagnent bien entendu le parking gratuit. Ils vont aussi gagner de l'argent lorsque le véhicule loue, et le locataire de son côté, il paye en général à moitié prix.
D'accord, donc finalement de l'autopartage entre et pour particuliers. Est-ce qu'il y a également une version adressée aux sociétés B2B du service?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, notre société s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux sociétés. Et il y a une partie de nos clients qui sont surtout des chefs d'entreprise de PME qui sont intéressés aussi, eux, à économiser dans leurs déplacements professionnels.
D'accord. L'autopartage entre particuliers, c'est un service qu'on connaît déjà en France, notamment avec la start-up Trip and Drive. Vous différenciez avec une techno, c'est ça?
Oui, tout à fait. Donc, Kernomise, notre spécificité, c'est que en plus de la location de voitures entre particuliers, on essaye d'améliorer l'expérience client de la location de voitures en général. Donc, on essaye de faire quelque chose de mieux. Et pas uniquement avec des véhicules d'occasion.
Alors justement, comment?
Et donc, on le fait avec la technologie. On utilise un système de vidéo qui est un moyen 100% objectif de faire le contrôle du véhicule. On prend une vidéo 360 degrés à l'extérieur du véhicule, à l'intérieur, de façon à ce qu'on n'ait plus de discussion de comment était le véhicule au départ. On a aussi un système de kiosque qui nous permet d'économiser beaucoup dans les coûts d'agence. On n'a plus besoin d'avoir des comptoirs dans les halls des aéroports pour servir le client. C'est en direct avec un kiosque électronique. On va mettre le client en relation, en vidéoconférence avec notre centre de service.
Vous parliez
ça,
de cette vidéo.
Ça plaît beaucoup parce que les clients, ils sont contents. Et ça nous a aussi permis de avoir un contrat, le premier contrat au monde, entre une société de location de voitures entre particuliers et un aéroport. Ça s'est passé le mois dernier dans l'aéroport de Beauvais.
D'accord. Vous parliez donc de ces vidéos à 360 degrés là qu'on fait à l'extérieur de la voiture et à l'intérieur de la voiture. C'est pour pourquoi? Pour que tout le monde soit d'accord quand on rend la voiture, pour qu'il n'y ait pas de problème. Je sais pas moi, si par exemple j'ai rayé une porte ou embouti une aile, c'est ça?
Oui, c'est exactement ça. Aujourd'hui, quand on vous loue un véhicule, ce n'est pas très pratique de noter dans un papier les rayures qui sont existantes. On a toujours l'impression qu'il y a un risque immense, qu'on retourne le véhicule et qu'on n'a pas vu au départ qu'il y avait une rayure. Et ben là, avec ce système, il n'y a plus de discussion parce qu'on a la vidéo avant, on a la vidéo après, et ça constitue des vrais documents sur lesquels on se base si jamais il y a un doute.
Vous vous êtes installé dans la ville d'Amsterdam il y a un peu plus d'un mois, il me semble. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est parce que l'écosystème start-up y est plus vif, plus propice à l'investissement, au développement?
Oui, c'est aussi pour ça. Déjà, donc, c'est parce qu'Amsterdam est une ville internationale par définition. Hein, lorsque vous êtes hollandais, que vous êtes aux Pays-Bas, vous êtes obligé de réfléchir à l'international. Et donc, c'est une plaque tournante pour tout développement à l'Europe de l'Ouest. Et aussi, on est venu ici parce qu'on a eu une chance énorme d'être sélectionné par le Startup Bootcamp, qui est le meilleur accélérateur d'entreprise de l'Europe, très, très bien réputé. Et on fait partie de leur programme d'accélération qui a commencé il y a un mois et demi et qui va finir le 3 juillet avec ce qu'ils appellent le Demo Day.
Est-ce que vous visez le marché néerlandais?
Ah, bien entendu, comme tous les autres marchés de l'Europe de l'Ouest. On compte dans l'espace de quelques années pouvoir être présent dans des centaines de hubs, de points de voyageurs en Europe de l'Ouest. Donc on a déjà commencé ça avec la France, on est présent sur 4. On va bientôt s'étendre sur le sud de la France et on va se développer à l'international dans les plus grands aéroports et dans les plus grandes gares de l'Europe de l'Ouest.
Alors à votre avis, ce système de location de voitures comme ça, hein, qui est assez révolutionnaire, va prendre combien de parts de marché au business de la location de voitures en général?
Eh bien écoutez, moi, je suis pleinement convaincu que ce qu'on est en train de faire, ça révolutionne le système de location de voitures de la même façon que les autres économies de partage sont en train de révolutionner d'autres marchés.
Oui, comme Uber a révolutionné le taxi.
Je suis convaincu que ça va devenir le nouveau standard. Mais ça ne veut pas dire que ça va prendre de part de marché. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, On est en train de prouver à plein de monde que c'est faisable, que c'est objectif, que c'est beaucoup mieux pour les utilisateurs et même pour les opérateurs de location de voitures. Et il n'est pas exclu que les acteurs traditionnels se mettent là-dessus. Hein.
Ah oui, donc on peut imaginer des avis des Hertz se mettre sur ce business là bientôt? À votre avis?
Je ne peux pas me prononcer pour eux, mais si j'étais eux, je regarderais un petit peu ce
d'accord.
dossier.
Très bien, merci beaucoup.
Guy Bouletti, merci. Je rappelle, vous êtes cofondateur et directeur général de la start-up Carnomise. Merci.
Merci beaucoup. Et vous restez avec nous. Suite et fin de l'atelier dans un instant, direction la rédaction de 01net.com, comme chaque samedi. Et puis après le crash test d'Antoine Cyr, à tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Voilà l'atelier numérique sur BFM Business. Avant de retrouver notre crash test avec Antoine Cyr, eh bien, il est temps de faire un petit détour du côté de la rédaction de 01net.com, comme chaque samedi. 01net.com, le premier site d'actualité en France, et son rédacteur en chef du Pôle Actu est avec nous. C'est Eric Le Bourlou. Bonjour Eric.
Bonjour.
Avec, bien sûr, de l'Apple cette semaine, de la pomme, car Apple a, en tout début de semaine, inaugurer sa WWDC, c'est le grand rendez-vous des développeurs Apple, avec beaucoup d'annonces qui ont été faites, notamment dans le domaine de la musique.
Et oui, on s'y attendait un peu, hein, on va dire. Hein, mais voilà, c'est donc l'offre d'Apple en matière de streaming a été révélée durant cette keynote. Bon, alors c'est pas très étonnant. On connaissait déjà un peu le nom. Hein, ça s'appelle donc Apple Music. Voilà.
Bon, tout simplement. C'est pas très original, ça mérite d'être clair.
Ça mérite d'être clair. Et c'est une offre qui ne chamboule pas complètement.
Oui, il n'y a pas de rupture.
Pas de rupture, c'est une offre qui ressemble à celle qu'on connaît déjà chez Deezer, Spotify, etc. Donc c'est une offre il n'y a pas d'offre gratuite, hein, on s'en doutait, il n'y a pas d'offre gratuite, ça coûte donc 9,99€ par mois. Pour un compte avec un essai gratuit de 3 mois, et donc pour cela vous avez accès à 30 millions de titres, en gros le catalogue d'iTunes en illimité, et vous pouvez télécharger les morceaux quand vous êtes hors connexion, etc., etc. Donc c'est une offre qui ressemble énormément à celle de Spotify ou Deezer. À quelques petits détails près, en effet, quand même, il y a quelques petits changements. Il y a notamment l'apparition d'une offre famille. Alors ça, c'est peut-être le truc le plus intéressant de l'offre d'Apple, c'est-à-dire que avec un abonnement Apple, vous pourrez avec un abonnement à la
excusez-moi 15€,
c'est ça. Voilà.
Ouais, c'est bien
15
ça.
Euros, 15€, pardon. Vous pourrez connecter en fait 6 personnes différentes de votre famille, donc c'est moins cher que la concurrence pour le coup, puisque Spotify a déjà une offre famille, mais elle est moins intéressante. Donc voilà, ça c'est un petit peu le petit plus. On peut avoir une offre familiale pour toute la famille à un tarif raisonnable.
Oui, ça fait un peu plus de 2,50€ par personne. Ça c'est vraiment intéressant, hein, franchement.
Ouais,
hein.
C'est pas mal. Alors Spotify a déjà annoncé qu'il se calerait sur cette offre. Deezer n'a pas le même genre d'offre pour l'instant. Donc voilà, ça c'est effectivement l'offre est à peu près la même que la concurrence. Au niveau morceaux, il n'y a pas de grande différence. Hein.
Il y aura quand même votre artiste préféré, Taylor Swift.
Hein, oui, il y aura tout à fait.
Qui sera sur Apple Music et pas sur Spotify.
Et pas sur Spotify, c'est vrai. C'est vrai que c'est une grosse différence. Mais pour ceux qui aiment Taylor Swift, ça peut être un facteur de choix.
Il y en a quand même.
Bon, alors il y aura aussi un truc assez surprenant qui est une radio, en fait, une vraie radio qui sera diffusée depuis trois villes, donc depuis Londres, depuis New York et depuis Los Angeles, et il y aura des contenus premium, on va dire, cette radio, des concerts, une vraie offre éditoriale. Alors c'est assez surprenant de voir qu'Apple se lance dans la radio.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils créent un vrai studio de radio.
Exactement.
Avec des vrais DJ qu'ils ont débauchés à prix d'or à la BBC.
Exactement.
Qui ont des carnets d'adresses incroyables, ils connaissent tous les portables de toutes les stars, donc on peut imaginer qu'on va avoir peut-être des programmes intéressants.
Ouais.
Sur ce Beats One, c'est comme ça que cette radio va s'appeler.
Exactement. Et alors, ce service donc va sortir très bientôt, hein, le fin juin, avec une update d'iOS, le logiciel, le système d'exploitation mobile d'Apple. Ça arrivera donc le 30 juin, et on aura 3 mois d'essai gratuit pour essayer.
3 mois, c'est pas mal. Hein.
C'est pas mal, oui. C'est vrai que ça suffit pour ferrer un petit peu l'utilisateur qui, une fois qu'il aura constitué plein de playlists, plein de sauvegarder plein de morceaux, aura peut-être du mal à s'en passer au bout des 3 mois.
Après, la question qu'on peut se poser, est-ce que ce raz-de-marée Apple Music va déstabiliser les acteurs déjà ancrés, c'est-à-dire à la fois Spotify et peut-être Deezer,
ouais,
qui vont peut-être se retrouver en difficulté. Hein.
Alors, en tout cas, pour ce qui est Spotify, ils ont déjà annoncé de nouveaux investisseurs. Ils ont annoncé qu'ils avaient, là, pour un peu bander les muscles, montrer qu'ils existaient. Juste après l'annonce d'Apple Music, ils ont annoncé qu'ils avaient 20 millions d'abonnés, ce qui est payant, ouais, ce qui n'est pas rien.
Et ils ont levé 500 millions de dollars.
Ils viennent de lever 500 millions de dollars. Donc voilà, ils montrent aussi qu'ils sont bien en forme et qu'ils vont effectivement mener la bataille face à Apple, qui va de son côté évidemment utiliser toute sa puissance marketing pour vendre son service. Et on rappelle aussi d'ailleurs que ce service ne sera pas disponible que sur iPhone. Ça, c'est aussi là un peu la grande nouveauté de cette conférence. Ce service sera disponible sur iOS, bien sûr, sur Mac, sur Windows, évidemment, par le biais d'iTunes, et aussi sur Android. Et ça, c'est une vraie première. Hein. Donc, Apple reconnaît qu'Android est quand même
l'OS existe
et même l'OS mobile dominant, et donc proposera une application Android pour que les gens qui utilisent Android puissent utiliser ce service.
Ouais, une application Apple sur Android, c'est quand même assez révolutionnaire, hein, les amis, hein, mine de rien. On enchaîne quand même aussi, parce que, évidemment, durant cette soirée, il y a eu cette annonce Apple Music, mais aussi une annonce sur le contenu de votre futur iPhone, puisque l'iPhone que vous avez, si vous avez un iPhone, est mis à jour régulièrement, hein, avec des nouvelles versions d'iOS. Et là, on lance un petit peu plus sur iOS 9.
Oui, iOS 9 qui sera donc lancé cet automne, sans doute avec l'arrivée du prochain iPhone. Donc iOS 9, c'est une update, on va dire, c'est pas la révolution. Il y a une nouvelle. Alors au niveau d'interface, vous verrez pas de grande différence. En revanche, il y a pas mal de choses qui ont été ajoutées, notamment pour le multitâche. Le multitâche a été revu et corrigé. On voit mieux les différentes applis. C'est plus facile. Il est aussi surtout a priori plus léger. Hein. Il serait normalement assez agréable de l'utiliser même sur des iPhones un peu anciens. On verra bien quand on l'essaiera.
Oui, c'est le gros reproche qu'on faisait à iOS 8, hein, qui était
assez lourd par rapport à la version précédente. Et il y a des petites nouveautés pratiques, notamment Siri qui est amélioré. Siri qui fait deux nouvelles choses, hein, qui vous propose de nouveaux résultats quand vous lui faites des requêtes en langage naturel, et surtout l'apparition de ce que Apple appelle Proactive Assistant, qui est en fait une espèce de Cortana, l'assistant vocal de Microsoft ou de Google Now. En fait, c'est quelque chose qui c'est un petit outil qui va aller farfouiller dans vos emails, farfouiller sur votre localisation pour vous proposer de l'information de façon proactive, justement. Par exemple, si il voit dans vos emails que vous avez un rendez-vous dans 2 heures, il va vous l'afficher dans Spotlight. Tout ça se fera selon Apple dans le strict respect de votre vie privée, puisque ça a été la vie privée un des grands thèmes de cette conférence aussi. Donc ils veulent vraiment aussi se distinguer de Google. Il y a aussi un truc très intéressant qui va apparaître dans iOS 9, c'est que ils vont, et ça aussi c'est vraiment de l'anti-Google, hein, Safari va évoluer, acceptera les extensions. Les extensions, comme vous en trouvez déjà sur Firefox ou Chrome sur votre bureau, vous pouvez télécharger des petits programmes qui complètent ces fonctionnalités, et Safari acceptera les bloqueurs de publicité, donc les adblock par exemple. Et Apple a même fait une conférence à ce sujet lors de la WWDC, et donc c'est clairement un pied de nez à Google qui lui vide la publicité en ligne,
voilà,
qui est d'ailleurs même majoritaire sur iOS. Et voilà, Apple évidemment veut sa part du gâteau, puisque du même côté, il a aussi sa régie publicitaire Ayad, qui pourrait lui ne pas être bloqué, qui ne serait pas bloqué quant à elle, évidemment.
Mais c'est vrai qu'Ayad pour l'instant n'est pas un véritable succès.
Non, c'est même un vrai flop. Ouais.
C'est vrai un vrai flop. Dernière chose concernant l'autonomie aussi, hein, de votre smartphone, qui risque d'être grandement amélioré avec iOS 9, qui sera moins gourmand en énergie visiblement.
Ouais, moins gourmand en énergie, et puis aussi il y aura un nouveau mode, hein, inspiré de celui qu'on trouve déjà sur la Watch, qui est un mode d'économie d'énergie. En fait, vous pourrez utiliser votre montre, votre téléphone un peu plus longtemps si vous activez ce mode, 3 heures de plus.
On parle maintenant d'une autre annonce, alors qui est un petit peu plus geek, mais franchement, si vous aimez le jeu vidéo et si vous avez un PC, peut-être que demain vous craquerez concernant ce nouvel Oculus Rift. En fait, ça sera le premier Oculus Rift qui sera véritablement vendu dans le commerce pour le grand public.
Exactement.
Rappelons ce que c'est, masque de réalité virtuelle. C'est-à-dire que vous mettez un masque sur votre tête et vous êtes complètement immergé dans un monde incroyable à 360 degrés, en haut, en bas, sur les côtés. Vous êtes véritablement au cœur de l'action. C'est complètement génial.
Exactement. Donc là, Oculus VR, qui est, on le rappelle, une filiale de Facebook. Hein. Facebook a racheté cette entreprise, a présenté la version définitive du casque, enfin en tout cas la toute première version du casque. Pour l'instant, on n'avait vu que des kits de développement, qui sera livré au début 2016, début d'année prochaine. Donc tout le monde pourra l'acheter. Ça marchera avec un PC. Il faudra un PC assez puissant d'ailleurs. Et ce qui va, donc là, ils ont présenté une nouvelle version qui est apparemment assez légère. On n'a pas pu encore jouer avec, malheureusement, mais on pourra le faire à l'E3, qui est très légère, qui intègre le casque. Et ce qui est surprenant, en fait, c'est que, bon, alors après, on voit que ce sera à peu près la même technologie que ce qu'on a déjà vu, mais ce qui est surprenant, c'est que Oculus s'est associé à Microsoft. Donc, en fait, ce casque sera vendu avec une manette Xbox One pour jouer à des jeux. Et on pourra également streamer ces jeux Xbox One sur le casque. Donc, ce sera pas une expérience à 360. Il faudra un PC sous Windows 10.
Les jeux Xbox One passeront sur le PC et après iront sur le masque. C'est dommage.
C'est vrai. Et puis surtout, ce sera pas une vraie expérience à 360 degrés parce que les jeux n'ont pas été conçus pour ça.
C'est peut-être aussi la réponse au projet de masque de Sony aussi qui est dans les cartons et qu'on devrait découvrir aussi dans les jours qui viennent.
Exactement. C'est vrai que c'est une réponse Microsoft. Comme ça permet à Microsoft d'être présent sur le secteur de la réalité virtuelle sans avoir à dépenser des sommes de R&D incroyables.
Un nouveau masque.
Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y aura des jeux. Alors, il y a plusieurs jeux qui ont été annoncés. Oculus a annoncé qu'ils investissaient 10 millions de dollars dans la création de jeux indépendants, parce qu'évidemment, une plateforme sans jeu, c'est l'échec assuré. Donc, il y aura quelques jeux, notamment un jeu d'Insomniac Games, qui est un studio bien connu, un jeu de combat spatial. Enfin, bon, on verra ce qui va se passer. Ça arrivera donc Q1 2016, premier trimestre 2016.
On va parler maintenant des drones avec un constructeur français de drones qui est quasiment leader dans le monde dans ce domaine, c'est Parrot. Parrot qui vient d'annoncer deux nouveaux drones, alors qui roulent, qui sautent, qui volent et qui naviguent.
Ces drones déjà, ce sont pas des drones très très sérieux.
Des jouets.
C'est des jouets, mais alors ils avaient déjà...
C'est des jouets pour des jouets de luxe, on va dire.
C'est des jouets de luxe. Bon, ça commence à 99€, il y en a qui vont jusqu'à 169€. Ce qui est intéressant, c'est que Parrot s'était lancé sur ce secteur du drone jouet l'année dernière. On voit que a priori ça fonctionne, puisque là ils multiplient les drones jouets. Alors ce sont tous des jouets effectivement, mais ils sont tous quand même connectés. On s'y connecte en Wi-Fi via son smartphone ou avec en Bluetooth.
Oui.
Et alors, ce qui est surprenant, donc il y a des drones qui sont parmi tous ceux qui ont été présentés, il y en a beaucoup, hein, parce qu'il y en a. En fait, il y a quatre modèles différents, si je ne m'abuse. Il y a des remakes des modèles de l'année dernière, donc en fait des drones qui sautent et qui roulent très vite, enfin plus ou moins vite. Mais il y a surtout un drone qui est assez intéressant, puisque c'est un drone aquatique qui s'appelle Hydrofoil. Ce drone, en fait, il est livré à... C'est un petit drone volant, mais qu'on peut accrocher à une structure qu'on va coller.
Voilà, qui flotte. Qui ressemble à un bateau, en fait.
Exactement, un petit bateau c'est un hydro. Je sais plus le nom.
Fait, ça ressemble à. C'est ces trucs qui volent.
Un hydroptère, je crois. Ouais, ça s'appelle un hydroptère, je crois.
Un hydroptère.
Je crois que c'est ça.
Et en fait, donc le drone se soulève dès que vous actionnez en fait le moteur, et en se soulevant, il va propulser le bateau qui peut aller
Exactement.
Très vite. C'est assez sympa.
Exactement, c'est peut-être un moyen de ringardiser les bateaux télécommandés qu'on trouve sur les plans d'eau à Paris notamment.
Voilà, et qu'on loue.
Mais bon, en tout cas, tous ces petits drones sont vous risquez de faire un petit carton à Noël, on verra bien.
Voilà, parce qu'ils seront pas disponibles tout de suite, visiblement. Hein, il faudra attendre encore un petit peu. Merci beaucoup, Éric Le Bourlou, rédacteur en chef du pôle actu de zeronet.com. Vous restez avec nous. Suite et fin de cet atelier avec le crash test d'Antoine dans un instant. À tout de suite.
L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être avec nous. Dans un instant, nous allons terminer cet atelier avec le crash test d'Antoine, un crash test de saison. Les vacances approchent. Il fallait absolument qu'Antoine analyse le mot bikini sur un moteur de recherche que vous connaissez. On va voir la réponse dans un instant, mais auparavant, c'est notre Silicon Zango. Direction l'Asie avec Renaud-Edouard Marot. Et Renaud, vous nous parlez de DVD cette semaine.
Du Shoot the Duo Gong Neng Pan, mal traduit par numérique multifonction peu plaque, encore plus incompréhensible quand on sépare les caractères, pensez donc deux points, nombre, mots, plus, puissance, pouvoir, plat. Enfin bon, d'aucuns le connaissent peut-être sous l'intitulé disque numérique polyvalent, mais les autres vont surtout le nommer DVD. Oui, parlons DVD. à l'heure où l'Europe se gave de vidéos à la demande, ou Chupin Dian Bo, soit respect fréquence point diffusion. Quel est le prétexte qui me pousse à vous parler de DVD? Eh bien, c'est l'annonce alambiquée de Youku Tudo, le premier portail de vidéos en Chine qui oscille entre envie de Netflix et passé de YouTube. Celui-ci explique qu'il veut préciser un communiqué de presse déjà diffusé dans lequel lui et Disney, soit Disney, affirme vouloir former un partenariat exclusif sur le marketing en ligne de la collection de films et téléfilms issus de Marvel, la boîte à super-héros rachetée par Mickey. À noter que super-héros se dit Chao Ji Ying Xiong, soit dépassé niveau anglais mal. Et puis, parce que je suis resté un couillon du haut de mes 41 ans, voici la traduction de Thor, Iron Man, Hulk, La Veuve Noire et Capitaine America. Thor, Tianjin San Xiang, Fei Chuan, He Guafu et Meguo Dui Chang. Je pensais que les Chinois allaient appeler Hulk Monstre Vert ou un truc comme ça, mais d'après Google Translate, Hulk se prénomme Ponton. Vous savez, le dispositif flottant pour aller sur un bateau sans nager dans un port. Bon, ce doit être encore un coup de la contextualisation. Quand le ponton rencontre les Lingzhen Jingxi, soit les Avengers, il devient vert. C'est comme ça. 2015 pourrait être l'année de la vidéo et du cinéma en Chine. Et pourquoi pas même de la propriété intellectuelle. Chan Kwan, qui sait. Il faut savoir qu'acheter un DVD véritable en Chine est quasi impossible. En toute honnêteté, je ne sais même pas où l'on peut trouver cela. Donc on passe par des boutiques officielles, hein, remplies de faux, des Daoban, soit voleurs édition. Des faux tournés à l'épaule, enregistrés sur les télévisions américaines ou coréennes, piratés à la source, mieux, avec des sous-titres de traducteurs patentés, mieux, ou d'impotents, pas bien. Bref, comme on l'entendait dans Arnold et Woolly ou Si Lu Zi, il faut de tout pour faire un monde, tu sais. Mais les géants du web et les télévisions doivent alimenter leurs plateformes en ligne. Et pour cela, ils doivent aussi se mettre en bon terme avec les principaux groupes de contenu mondiaux. D'autant que, quand ceux-ci arrivent, ils ne le font pas à moitié. Ainsi, Disney va ouvrir son premier parc en Chine continentale à Shanghai, avec forcément sa boutique officielle, dont on peut imaginer qu'elle sera remplie de DVD officiels, ou pas. Quoi qu'il en soit, le parc sera une copropriété avec la ville de Shanghai. Alors là, autant dire que ça va pas vraiment plus rigoler avec la version des Aristochats en albanais sous-titré vietnamien. Ce qui peut être dommage, finalement, mais c'est une autre histoire. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a un peu moins de 700 ans, Marco Polo ouvrait l'Asie à l'imaginaire occidental et que fin 2015, début 2016, Disney ouvrira la Chine au copyright. Et Tencent dans tout cela? Toujours pas de nouvelles, je suis désolé. On verra la semaine prochaine si Tenzin Gongyu ou Sun Gong se réapparaît ou pas.
Renaud Darbaro, merci et place donc à notre crash test maintenant pour terminer cet atelier numérique sur BFM Business. Antoine, le bikini.
Oui, le bikini. Alors vous allez me dire, le bikini c'est de saison, mais le bikini c'est surtout geek. C'est très très geek.
Vous êtes sûr de ça ?
Très 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 geek, et oui. L'été sera geek. Depuis qu'une PME...
Le geekini.
Le geekini. Oui. Oh là là.
Elle est pour moi. Je vous l'offre, celle-là.
Allez. Merci, je la prends bien volontiers. Allez-y. Donc, il y a une PME alsacienne qui vient tout simplement de lancer le bikini connecté. Qui est c'est un maillot de bain qui est équipé d'un capteur d'UV et donc il vous envoie des alertes quand il est temps de s'enduire de crème solaire. Donc j'ai trouvé ça sur pas mal de
sites. C'est un bikini anti coup de soleil.
C'est un bikini anti coup de soleil. J'ai trouvé ça sur le. C'est, bah oui, c'est un bikini intelligent d'ailleurs. voilà. Et donc j'ai trouvé ça sur pas mal de sites, dont celui d'ailleurs des Belges de rtbf.be, qui souhaite évidemment éviter les coups de soleil. Alors il a été inventé.
On salue nos amis belges, hein, bien
nos
sûr.
Nos amis belges.
Écoutent.
Mais alors on va aussi saluer nos amis alsaciens, parce que c'est Spinali Design, une PME de Mulhouse, qui a donc créé ce bikini. Et donc c'est Marie Spinali qui est l'entrepreneuse alsacienne a eu l'idée de ce bikini. Donc c'est une vraie start-up, hein. Jusque là elle était gérante d'une société informatique et donc elle dit voilà, un jour j'ai vu quelqu'un prendre un coup de soleil sur la plage et elle a eu l'idée de ce
en
produit.
En Alsace c'est pas facile.
Ah écoutez, oui non mais elle peut aller quand même de temps en temps en plage.
Bien sûr.
Vous n'êtes pas drôle.
Pardon.
Vous n'êtes pas drone, comme on dit dans l'aviation.
Oh.
Et donc Marie Spinali explique que c'est pas un gadget, hein, que c'est vraiment quelque chose de très utile. Et elle a tout à fait raison. Ça fait tout à fait du sens.
Mais est-ce qu'il est beau ce bikini? Parce que c'est bien beau un bikini connecté, mais un bikini, il faut qu'il soit beau.
Oui. Bah, il est tout à fait. Vous voyez, il y a des photos avec des mannequins en bikini connecté. Alors les mannequins sont très bien aussi. Ça
voilà.
Aide,
donc hein, voilà.
Voilà.
D'accord. Mais ça va.
Il est commercialisé sur Internet depuis la mi-mai à partir de 149 €, et donc il est équipé d'un petit boîtier noir attaché à la hanche du slip de bain qui mesure donc l'intensité des ultraviolets, et donc en fonction de cette intensité et du type de peau de l'utilisatrice, parce que les bikinis quand même c'est plutôt des utilisatrices.
Ah bon?
Oui. Il vous précise quel indice de protection utiliser. C'est donc quand même une espèce de un peu de maman poule 2.0. Alors le bikini, il a toujours été lié à la technologie.
C'est vrai.
Et oui. D'abord, bon, le bikini, c'est une invention récente, hein, c'est une invention de l'ère moderne. Il a été inventé en 1946, même si on voit des fresques, des mosaïques grecques, hein,
avec des bikinis,
dans lesquelles on voit des choses qui ressemblent quand même étrangement au bikini. Mais le monde est, la marche du monde est un éternel recommencement.
Évidemment.
Donc, voilà. Enfin, à l'ère moderne, le bikini, donc, a été inventé en 1946. Par un certain monsieur Louis Réard. Alors j'ai trouvé. Alors vous voyez, Louis Réard, il a des grosses lunettes, il a un air quand même, sans lui faire offense, un peu de comptable.
Bah, il a, on dirait un peu l'inspecteur Derrick.
Voilà,
si vous
c'est une sorte d'inspecteur Derrick.
Vous voyez l'inspecteur Derrick, et bien vous l'imaginez à côté d'un bikini.
Des grosses lunettes, voilà. Donc c'est pas exactement.
Oui.
C'est
pas lui qui va emporter, quoi.
C'est pas lui. Mais bon, c'est comme ça.
Bah, bravo,
il a pensé au bikini. Donc j'ai trouvé pas mal d'informations sur l'invention du bikini sur un site qui est le blog de Tiphaine Sanson qui s'appelle histoire-costume.fr. Donc voilà, et c'est un blog sur lequel il y a beaucoup d'informations sur les costumes. Et donc on nous rappelle que lorsque Louis Réard a inventé le bikini, on venait tout juste d'avoir les congés payés qui avaient été un peu un facteur de libération.
Donc c'est logique.
Juste avant guerre. Donc après il y a eu la guerre. Et donc on attend l'été 1946 pour voir cette révolution corporelle, ce maillot de bain de deux pièces qui va être présenté pour la première fois à Paris le 5 juillet 1946 à la piscine Molitor. Et figurez-vous que Louis Réard a dû demander à une certaine Micheline Bernardini, qui était à l'époque assez connue au casino de Paris comme danseuse nue, de porter ce bikini, aucun mannequin professionnel n'accepta de défiler à la piscine Molitor, hein, quand même. C'était pas, on lui demandait pas de sortir.
Oui, voilà, sur les Champs-Élysées.
Exactement.
C'est ça.
Voilà.
Ouais, parce qu'à la piscine Molitor, on peut se dire qu'on va se baigner, quoi. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc ça prouve quand même que c'était un sujet sensible à l'époque.
Et alors, ce qui est extraordinaire, les gens vous disent toujours que le marketing, c'est du calcul, qu'il n'y a pas d'intuition. Bah, figurez-vous que c'est seulement 5 jours avant cette présentation que les Américains avaient fait exploser une bombe dans le cadre d'essais nucléaires sur un atoll du Pacifique qui s'appelle l'atoll de Bikini.
Oh.
Car le bikini est lié à l'ère nucléaire. Il y a eu cette explosion nucléaire de Bikini, qui n'était quand même pas quelque chose de follement rigolo, puisque un an avant, on avait eu les explosions de Hiroshima, de Nagasaki. Les gens sortaient de la guerre. Mais non, il y avait une telle fascination de l'atome.
Oui, bien sûr.
Il y avait une telle idée
de cette énergie nucléaire
d'entrer dans une ère nouvelle, qu'on était en train d'entrer dans des choses qui allaient nous transformer et nous transporter dans un futur totalement différent, que du coup le bikini est un enfant de cette transformation, de cette évolution, et donc cette intuition, c'est ce qu'a eu donc Louis Réard, qui s'est dit voilà, on est dans l'ère atomique, le bikini, ça va être une révolution atomique, et donc il a donné ce nom-là quelques heures, avant de faire la présentation. Ça, c'est quand
donner une beauté atomique.
Ça, c'est quand même. Ah oui, alors il y avait la blonde atomique, d'ailleurs, qui avait été donnée comme surnom à Rita Hayworth dans Gilda en 46 cette année-là. Et alors même que.
Mais elle n'était pas en bikini.
Mais surtout, elle n'était pas blonde, elle était rousse.
Ah, oui.
Mais comme le film était en noir et blanc, le distributeur français l'avait appelée la blonde atomique. C'était assez drôle.
C'est dingue, hein, ça.
Ouais, voilà. Mais les jours étaient passés. Après, je vous raconterai d'autres histoires là. Mais là on n'a pas le temps parce que il faut quand même rappeler, alors j'ai trouvé un site quand même sur Bikini, parce que Bikini est une des îles de l'archipel des Marshall, et donc j'ai trouvé un site qui parle en détail de ce fameux site de Bikini. Figurez-vous que c'est le site de l'UNESCO.org, parce que aujourd'hui, le site de Bikini, où on a fait exploser cette bombe atomique d'une puissance qui, je crois, était 4000 fois celle d'Hiroshima. Enfin bon,
c'est un truc dément.
Eh bien, aujourd'hui, il est classé patrimoine mondial de l'humanité parce qu'il y a les anciens bunkers, parce que faune a été complètement transformée par cette explosion atomique. Et donc, aujourd'hui, ça fait partie des sites au même titre que les pyramides ou d'autres choses. Voilà.
D'accord. Et à mon avis, il doit encore rester sans doute des traces de radioactivité.
Ils ont été obligés d'enlever. Ils avaient ramené les populations dans les années 60 et ils ont été obligés de les réenlever dans les années 70. Mais quand même, maintenant, elles sont revenues. Et il y a dans la région, dans les îles Marshall qui entourent les Bikini, il y a aujourd'hui 70 000 habitants. Quand même.
Merci Antoine pour ce super crash test sur le Bikini. Vous voyez qu'on en apprend des choses. Cet atelier numérique est terminé sur BFM Business. Merci d'avoir été avec nous. Un bon week-end à vous toutes et à vous tous. Rendez-vous samedi prochain dès 16h. Salut à tous.